Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous tous les matins à cette heure-ci, 8h10, temps universel, 9h10, heure de Paris, RFI vous donne la parole. D'ailleurs, dans 30 minutes, nous débattrons ensemble sur un sujet clivant, nous parlerons du bras de fer entre l'Afrique et la Cour pénale internationale. Vous savez que la CPI est régulièrement critiquée sur ce continent où la Cour est accusée de ne poursuivre que des Africains. Il y a deux semaines, ça ne vous a pas échappé, lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les chefs d'État ont entériné le principe d'un retrait collectif de la CPI. Alors s'agit-il d'un effet d'annonce ou d'une véritable menace? En tout cas, ce scénario ne fait pas l'unanimité. Plusieurs États s'y opposent. C'est le cas notamment de la Gambie, où contrairement à son prédécesseur Yahya Jammeh, le nouveau président Adama Barrow a décidé de maintenir son pays au sein de la Cour pénale internationale. Alors que vous inspire ce bras de fer? L'Afrique doit-elle finalement tourner définitivement le dos à la CPI? On en parle ensemble. Vos réactions, comme d'habitude, sur ce sujet sont nombreuses. On a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70 et vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va revenir sur le PSG, le club parisien qui a donc écrasé mardi soir le Barça 4-0. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Port-Gentil au Gabon. On vous écoute.
Exactement. Oui, Juan Gomez, le Paris Saint-Germain vient de remporter la 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Alors, qu'est-ce qui peut changer pour le sélectionneur parisien Unai Emery face aux dirigeants de Paris Saint-Germain pour sa victoire?
Oui, d'autant qu'il était critiqué ces dernières semaines et ces derniers mois, aussi bien par la presse que par les supporters. On se disait, oulala, ça risque de chauffer entre le sélectionneur et les dirigeants du club. Thomas Saléger, bonjour.
Bonjour Juan.
Journaliste au service des sports de RFI, après le match de mardi soir, Unai Emery s'est réconcilié avec tout le monde?
Bon Juan, il faut quand même rester prudent, attendre le match retour, que Paris valide ce large succès. Ce sera cette fois en terre catalane, on y reviendra peut-être. Mais bien sûr que cette victoire de mardi soir et son ampleur, ce score très fleuve, renforce la crédibilité d'Unai Emery auprès des dirigeants, des observateurs et aussi bien sûr des supporters, parce que le PSG version Qatar avait besoin d'un exploit avec un E majuscule en Ligue des Champions. Il y a eu l'élimination de Chelsea, un duel très serré face au Barça dans le passé, mais ni Carlo Ancelotti ni Laurent Blanc n'étaient parvenus à placer le curseur aussi haut. Ça y est, Paris tient enfin son fait d'armes européen et Unai Emery, c'est quelques mois au moins de répit, vous l'avez dit. Il était très contesté, il n'avait pas réussi jusque-là à reproduire dans les compétitions domestiques, la Ligue 1 principalement, la domination sans partage du PSG, la marque de fabrique de Laurent Blanc. On rappelle que Paris, le Paris Saint-Germain, n'est que deuxième du championnat derrière Monaco.
Oui, il y a trois points qui les séparent. Rien n'est encore terminé. En tout cas, ce qu'a fait Unai Emery mardi dernier, personne ne l'avait fait dans l'histoire du Paris Saint-Germain.
En tout cas, il a réussi là où les autres, ses prédécesseurs de l'ère qatarienne, ont échoué. Et pour beaucoup d'ailleurs, cette victoire face au Barça, c'est sa victoire. Tactiquement, son PSG a dicté le jeu. Ses choix ont payé. La titularisation du jeune Kimpembe en défense centrale, Di Maria et Draxler sur les ailes plutôt que Lucas. Bref, Unai Emery est passé en quelques jours du statut d'entraîneur, peut-être pas sur la sellette mais pas loin, à celui de génie tactique. Comme les joueurs aiment bien le répéter, dans le foot, tout va très vite. C'est une phrase très cliché évidemment, mais ça résume bien ce qui est en train d'arriver à l'entraîneur basque du PSG.
Patrick, vous avez une autre question?
Oui Juan, match retour à Barcelone, peut-il être certain d'être qualifié pour le Paris Saint-Germain?
Ah, match retour dans 3 semaines, hein, ce sera le 8 mars.
Voilà, exactement. Alors, statistiquement, oui, Paris est qualifié dans l'histoire de la Ligue des Champions. Jamais une équipe n'a remonté un tel écart. 4-0, c'est quand même un sacré fossé. Oui, mais voilà, le Barça n'est pas une équipe comme les autres. Messi, Suarez, Neymar, Iniesta restent des joueurs à part extraordinaires. Je ne vous apprends rien, Juan. Ce match retour, ce sera en plus dans leur jardin.
Ah,
voilà,
oui,
c'est au Camp Nou, un terrain très grand qui convient bien à leur style de jeu. On ne va pas vendre non plus de faux suspense. Il faudrait un incroyable concours de circonstances pour voir le Barça renverser cette situation. À l'heure où l'on parle, Paris est qualifié à 99%. Ce qui est sûr, c'est que dans 3 semaines, on risque d'assister à un match complètement fou. Barcelone va mettre une énorme pression d'entrée. Je vous promets un combat tactique, technique, psychologique de très haut niveau. On se donne rendez-vous le 8 mars et ce qui est bien, c'est que ce sera à suivre sur RFI.
Évidemment, il faut se préparer à souffrir durant 90 minutes à Barcelone, a dit Unai Emery. Référence évidemment au match retour donc le 8 mars. Thomas de Saint-Léger, merci à vous.
Merci.
On souhaite une belle journée à Patrick qui nous appelait de Port-Gentil. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Maki, vous êtes en Guinée, bonjour.
Oui, Juan, bonjour et bonjour à tous.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Ok, merci. Alors, récemment, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a voulu nommer Fayyad, ancien premier ministre palestinien, au poste d'envoyé spécial de l'ONU en Libye. Mm-hmm. Mais l'administration Trump s'est opposée. Du coup, moi j'aimerais savoir pourquoi les États-Unis ont rejeté la nomination du secrétaire premier ministre. Et aussi, puisque cela fait, disons, que c'est le premier revers d'Antonio Guterres, est-ce qu'il a d'autres candidats en liste pour la formulation de l'accord politique en Libye?
Oui, premier revers, premier bras de fer entre le nouveau secrétaire général de l'ONU et le nouveau président américain. Bonjour Sophie Malibaud.
Bonjour
journaliste,
Juan, bonjour
au service international d'RFI. Visiblement, ce qui pose problème à l'administration Trump dans la nomination de cet émissaire, de ce représentant spécial de l'ONU pour la Libye, c'est la nationalité de Salam Fayyad.
Voilà, c'est un Palestinien. Manifestement, c'est ça qui pose problème. Et donc, les Palestiniens, évidemment, crie à la discrimination sur la base d'une identité nationale. Il faut savoir que normalement, l'identité nationale ne compte pas parce que c'est la compétence. Enfin, Guterres a exprimé le fait qu'il avait choisi Salam Fayyad pour sa compétence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu encore ni Israélien ni Palestinien dans des postes d'une si haute fonction au sein de l'ONU et que ce serait une première. On en est pour l'instant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a blocage. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'est produit ce blocage, parce que manifestement, ça n'a pas été bloqué d'emblée. Mmh. C'est-à-dire que l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley, n'avait pas manifesté son opposition à cette nomination. Et c'est dans un second temps l'intervention de Washington pour bloquer à la dernière minute cette nomination. Vous savez qu'on était dans le contexte juste à la veille de l'arrivée de Netanyahou à la Maison Blanche, qu'il y a cette espèce de retournement de position de Washington à l'égard d'une solution au Proche-Orient qui ne serait plus uniquement sur la base d'une solution à deux États. Donc il y a un véritable retournement politique de la politique de Washington à l'égard de cette question israélo-palestinienne. Et donc en ce moment, on est dans une incertitude totale.
Mais lorsque l'ambassadrice américaine à l'ONU dit « ça fait trop longtemps que les Nations Unies ont, voilà, je la cite, injustement favorisé l'autorité palestinienne au détriment de nos alliés en Israël », ça signifie quoi? Que tant qu'il n'y aura pas de haut représentant ou d'émissaire ou d'envoyé spécial d'émissaire onusien, voilà, israélien, les Américains bloqueront toute nomination palestinienne?
Alors, manifestement, vous aviez raison d'utiliser le terme de bras de fer. Il y a des tractations qui se déroulent en ce moment en coulisses. On dit que Guterres aurait contacté Tzipi Livni pour devenir adjointe au secrétaire général de l'ONU. Vous savez, il y a plusieurs adjoints. Elle aurait été contactée pour remplir ce poste. Donc, est-ce que Guterres a jeté l'éponge sur Salam Fayyad? C'est pas sûr. Les Israéliens sont manifestement en train de faire le forcing pour avoir un Israélien à un poste de très haute fonction. Mmh. Ça pourrait se terminer de cette façon. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de nom. Hein, pour répondre à la deuxième question de Maki, il n'y a aucun autre nom qui circule pour les Palestiniens. Donc, on pourrait finir par avoir... Mais simplement, il y a une phrase. Guterres dit qu'il estime que c'est une perte de ne pas avoir nommé Salam Fayyad.
Une perte pour le peuple libyen.
Pour le peuple libyen, parce que c'est un homme d'une grande compétence. En plus, il était réputé pour sa lutte contre la corruption. Du temps où il est passé il était ministre de l'autorité palestinienne.
Premier ministre et deux fois ministre des Finances.
Exactement. Mmh. Et donc, il avait fait un gros travail anticorruption. Il est reconnu pour ça. Et d'ailleurs, le bloc blocage de sa candidature, mais l'administration américaine dans le, au côté du Hamas, qui est contre Salam Fayyad également. Donc ça, c'est tout de même une position assez difficile à tenir. On va voir si vraiment le bras de fer, comment ça se joue sur la fin.
Mais ça va devoir se décanter assez rapidement, puisqu'il y a urgence tout de même sur le terrain libyen.
Tout à fait. Et justement, on est dans un moment très intéressant, puisqu'il y a une médiation égyptienne en ce moment même, qui est en train de revenir sur l'accord qui avait été conclu en décembre 2015 au Maroc, sous l'égide des Nations Unies, et peut-être un amendement à cet accord qui refait rentrer dans le jeu le général Haftar, vous savez, qui tient l'est du pays, la partie du Parlement de Tobrouk, contre le gouvernement qui est pour l'instant, dit-on, reconnu par la communauté internationale. Maintenant, la communauté internationale, elle se divise pas mal sur cette question.
Merci beaucoup, voilà. Sophie Malibaud. On vous retrouve dimanche, comme tous les dimanches,
oui,
sur l'antenne d'RFI et l'antenne de TV5 oui. Monde avec nos confrères du journal Le
voilà.
Monde.
Et puis, je peux vous annoncer qu'on aura Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères.
Voilà qui est dit. Donc, bonne émission. Voilà. Et
merci,
on remercie Maki qui nous appelait donc de Conakry. Il est 9h21 ici à Paris. Ce sont vos questions. Vous nous appelez 339 693 693 70. Et on va d'ailleurs continuer à parler d'une certaine façon de Donald Trump et de la nouvelle administration américaine. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour à tous.
Également journaliste au service international d'RFI, Chérif.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Vous nous appelez d'Atécoubé, c'est au nord d'Abidjan, la capitale ivoirienne. On vous écoute, vous avez des questions je crois sur le missile balistique lancé il y a quelques jours par la Corée du Nord.
Oui, en effet, la Corée du Nord a tiré une missile balistique et a traversé le Corée pour aller tomber sur la mer du Japon. Aussitôt tiré, le président Donald Trump est sorti en conférence de presse en déclarant qu'il est à 100% aux côtés du Japonais. À ce sujet, j'ai deux questions. La première question est de savoir, est-ce que le président Donald Trump va continuer sur le politique de Barack Obama qu'il avait vis-à-vis du Nord-Coréen, oui. Ou bien va-t-il durcir sa sanction sur le Nord-Coréen.
Quelle sera finalement la politique de Donald Trump à l'égard de la Corée du Nord, Christophe Paget? On va peut-être rappeler en quelques mots d'abord ce qu'a été la politique de Barack Obama durant 8 ans à l'égard du régime de Pyongyang.
Oui, alors le président américain, l'ancien président américain, alliait sanctions et diplomatie. Des sanctions principalement économiques et une diplomatie indirecte, puisque Washington ne voulait pas de lien direct avec Pyongyang qui aurait légitimé le régime. Donc, contact indirect avec les alliés des États-Unis dans la région, Tokyo, Séoul, mais aussi avec Pékin, puisque Pékin est la seule alliée de la Corée du Nord, la seule qui puisse lui parler. Rien ne peut se faire donc sans la Chine. Politique de la carotte et du bâton, avec une menace implicite d'utiliser la force en cas de débordement militaire nord-coréen. Sous Obama, on est donc resté dans la situation qui a cours en fait depuis Bill Clinton. Pyongyang fait des tests pour se faire remarquer et pour négocier directement avec les États-Unis qui refusent. L'objectif n'étant pas pour la Corée du Nord de dominer la région, mais bien de se maintenir au pouvoir en ayant voix au chapitre en matière de diplomatie internationale. En tout cas, essayer.
Oui, donc l'approche de Barack Obama, on a bien vu que ça n'avait pas fonctionné, elle n'a pas eu véritablement d'effet. Que va donc faire Donald Trump?
Alors, lorsqu'il était candidat, il avait surpris en disant qu'il était prêt à renouer le dialogue avec la Corée du Nord et qu'il n'aurait aucun problème pour discuter avec Kim Jong-un. Mais une fois élu, début janvier, le président américain a, dans un tweet, puisque c'est son mode de communication favori, voilà, il a dit que la Corée du Nord affirmait être aux dernières étapes du développement d'une arme nucléaire capable d'atteindre le sol américain et il avait tweeté « Cela n'arrivera pas ». Dans le même ordre d'idée, après le dernier test de missile nord-coréen, il avait dit être prêt à y répondre fortement. Donc tout ça ne semble en fait pas très défini. J'en ai discuté avec Philippe Golub, spécialiste des États-Unis et de l'Asie. Il estime que pour l'instant, concernant la Corée du Nord, l'équipe de Donald Trump n'a pas de politique. En fait, elle n'a en fait que des options. Première option, dialogue direct, qui ne semble pas ou plus à l'ordre du jour. Option de renforcement du cadre multilatéral dans lequel les pressions et les négociations s'exercent avec la Corée du Nord. Donc, ce qui veut dire concrètement discussion avec la Chine, discussion avec l'Europe. Ce qui, on l'a vu jusqu'ici, n'a pas porté de fruits significatifs. Option 3, accentuer les sanctions mais aussi les mesures de dissuasion, c'est-à-dire déployer le fameux nouveau système antimissile THAAD en Corée du Sud qui était prévu par Barack Obama et également renforcer le nombre de soldats américains déjà présents en Corée du Sud, renforcer aussi les moyens militaires japonais, des alliés. Enfin, une dernière option, évidemment, une action militaire préventive contre les installations nucléaires en Corée du Nord, ce qui semble peu probable.
Et pourquoi le choix n'a pas été fait finalement entre ces trois options?
Eh bien, tout simplement, selon Philippe Golub, parce que Donald Trump n'a pas encore vraiment d'équipe. hein. Les spécialistes asiatiques ne sont pas en place puisque le département d'État, les affaires étrangères américaines, n'est pas en ordre de marche pour l'instant. L'option la plus probable semble quand même la troisième, le déploiement militaire et des sanctions intensifiées, y compris sur ces firmes chinoises qui font du commerce avec la Corée du Nord.
Ah oui, déploiement militaire. Chéri, vous avez une dernière question rapidement?
Oui. Est-ce que Pyongyang continue toujours de recevoir le soutien de son voisin chinois sur cette course d'armement?
Alors clairement non, hein. La Chine condamne à chaque fois les tests nucléaires nord-coréens et aussi ses tests de missiles. Elle s'est d'ailleurs montrée plutôt coopérative avec les Américains sur la Corée du Nord, sans pour autant mettre trop de pression sur Pyongyang. Car la Chine ne veut pas voir une réunification des deux Corées sous égide américaine. Hein. La Corée du Nord lui sert aujourd'hui de zone tampon avec les militaires américains dont on parlait, installés en Corée du Sud. Pékin ne fera donc rien pour remettre en cause le régime nord-coréen, tout en étant très gêné par son programme nucléaire qui menace continuellement de remettre en cause le statu quo.
Merci beaucoup Christophe Paget d'être venu répondre à Chérif en Côte d'Ivoire. Bonjour Pierre Pinto.
Bonjour.
Rapprochez-vous
bonjour
du micro, vous êtes déjà dans ce studio. On me dit en même temps que Romarie Lionel à Bangui, la ligne vient de se couper. Alors je viens de faire son porte-parole, on va essayer de le rappeler dans un instant. Lionel qui revient sur les affrontements de ces dernières semaines entre les deux factions rivales, le FPRC, MPC et l'UPC. Elles s'affrontent, hein, ces deux factions, autour de Bambari. Et il veut comprendre les raisons, les causes de ces violences.
Alors elles sont multiples, ces affrontements durent depuis des semaines, voire des mois, et ont différentes causes. D'abord, il y a une dimension ethnique à tout cela qu'on ne peut pas écarter. Aujourd'hui, l'UPC, dirigé par Ali Darassa, est essentiellement composé de Peuls. Il y avait au sein de ce mouvement une composante arabe également, mais dont les chefs ont fait défection, et certains ont même rejoint le MPC l'été dernier, après des affrontements internes. Le FPRC, de son côté, est à dominante Goula. Il y a aussi des Runga, d'un autre mouvement, qui se bat dans ses rangs. Aujourd'hui, donc, sur le plan communautaire, une des grilles de lecture de ces affrontements, c'est cette grille ethnique, une alliance entre ethnies contre les Peuls. Mais s'en tenir à cela serait réducteur. Juan, il y a aussi une dimension humaine, une guerre des chefs. Certes, ils sont tous issus de l'ex-Séléka, mais il y a toujours eu des rivalités, des désaccords majeurs entre ces chefs. Et aujourd'hui, Noureddine Adan, le chef du FPRC, et son allié Al-Khatim, chef de la branche militaire du MPC, se sont alliés pour déloger Ali Darassa de la ville de Bambari, où il a établi son QG.
Alors justement, pourquoi veulent-ils chasser ce fameux Ali Darassa?
Deux raisons majeures, l'une économique, l'autre politique. Vous savez que les mouvements issus de l'ex-Séléka contrôlent aujourd'hui environ 60% du territoire centrafricain. Sur ces territoires, tous ces mouvements tirent d'importants revenus, des trafics de ressources minières comme l'or ou le diamant, mais aussi de raquettes en tout genre qu'ils font peser sur les commerçants qui vivent ou qui passent dans ces zones. La zone d'influence d'Ali Darassa s'est étendue ces derniers temps. Il contrôle la Waka, c'est-à-dire la préfecture de Bambari, ainsi que deux autres préfectures plus au sud et à l'est, le long en fait de la frontière avec la RD Congo. Il en tire des revenus substantiels grâce aux taxes sur les commerçants, donc sur les éleveurs transhumants, sur les rares compagnies étrangères qui travaillent encore dans la région, et surtout grâce aux mines d'or à ciel ouvert de Ndassima, à une soixantaine de kilomètres au nord de Bambari, et qui sont très convoitées par tous ces mouvements politico-militaires. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est d'ailleurs au mois de novembre, fin novembre, quand l'UPC a voulu empiéter sur les territoires des autres mouvements en imposant par exemple des barrières sur certaines routes pour prélever là encore des taxes à leur place.
Et puis il y a la raison politique.
Voilà, et cette raison politique elle tourne autour de la partition. Noureddine Adan proclame régulièrement l'indépendance de l'Est de la Centrafrique qu'il appelle tantôt République du Logone ou Dar el Kouti. À chaque fois il fait marche arrière sous la pression internationale mais il n'abandonne pas son projet. Ali Darassa lui s'est toujours opposé à cette partition. Si Noureddine Adan parvient à le faire partir, il se débarrasse donc d'un ennemi politique et met la main sur la plus grande ville de la région, dont il pourrait faire la capitale de son État indépendant.
Oui, Romarie Lionel, est-ce qu'on a répondu à votre première question?
Oui, oui.
Alors restez en ligne, je sais que le réseau téléphone s'est dégradé avec Bangui. On va se retrouver, Pierre Pinto, on est d'accord, juste après le journal, pour répondre à votre dernière question qui porte là sur un sujet récurrent et qui inquiète beaucoup de monde, le programme de désarmement en Centrafrique. À tout de suite Pierre.
À tout de suite.
Et à tout de suite à vous tous. On rend l'antenne à la rédaction pour le point complet sur l'actualité.
Du 21 au 30 juillet 2020.